Bonsoir, merci d'être là aussi nombreux, ça fait chaud au cœur. Enfin, je pense que ça va bouger pendant la soirée. Je ne vais pas vous accabler d'un long discours parce que je n'ai ni Guénaud ni Guéant pour me l'écrire, donc j'ai fait très court. Et puis, je ne vais pas vous parler d'actualité non plus parce que je pense que ça n'est pas le lieu du tout. Donc, je me présente, je suis Anne Julien, je suis la coordinatrice de l'association Écriture Vagabonde. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je n'y arriverai pas. Qui propose cette soirée à l'invitation de Florence Verdeil-Ossowski, chargée d'animation à la BPI du Centre Pompidou, qu'elle soit remerciée de la confiance qu'elle nous a témoignée. Je vais vous dire quelques mots simplement pour vous préciser l'histoire et les objectifs d'Écriture Vagabonde, puisque c'est nous qui avons en charge cette soirée. En 2000, 9 auteurs francophones, accompagnés par Monique Blain, encore directrice du Festival des Francophonies de Limoges, et par moi-même, alors responsable d'un joli théâtre en Limousin, font un voyage fondateur au Liban. Il en sortira d'ailleurs un recueil de 9 textes de théâtre édités chez Lanzmann, dont par exemple le collier d'Hélène de Carole Fréchette, qui nous fait le plaisir de sa présence pendant quelques minutes ce soir. Il est apparu à tous que ce genre d'immersion devait être proposé à d'autres, et c'est ainsi que l'association est née. Elle a plusieurs objectifs. Premièrement, ces voyages de plusieurs auteurs de théâtre, en général francophones, envoyés dans des pays souvent à actualité sensible, non pas pour des résidences d'écriture, mais pour une rencontre avec le pays et ses acteurs culturels ou civils. Il en résulte des textes, la plupart du temps sur un thème donné, par exemple les frontières pour le Liban, le voisinage pour le Maroc. Ces voyages, nous les nommons parcours. Deuxièmement, une sorte de remerciement au pays visité sous forme de proposition d'atelier d'écriture menée par un auteur « confirmé », entre guillemets, accompagné souvent d'un metteur en scène. Nous appelons ces travaux des chantiers. Nous nous efforçons de suggérer la création sur place de structures relais pour faire perdurer le travail entrepris. De là aussi, il sort des textes. Donc troisièmement, notre troisième objectif, notre troisième travail, c'est la diffusion de ces textes. Nous avons un comité de lecture qui s'efforce de juger de la qualité et de l'intérêt de ces écrits. Cela donne d'une part une sorte de banque de données sur des auteurs du monde francophone et leurs écrits, et d'autre part une politique éditoriale modeste mais constante qui nous permet d'avoir une collection au nom d'Écriture Vagabonde aux éditions Lanzmann en particulier, et d'avoir eu la fierté de voir plusieurs textes importants édités là ou ailleurs. Je cite pour exemple « Clandestinopolis » de Mustapha Ben Fodil, « Terre sainte » de Mohamed Kassimi, « Abet Alep » de Gustave Akakpo qui se joue en ce moment au tarmac, et d'autres textes. Nous travaillons aussi avec d'autres structures qui peuvent prendre le relais de notre action. Exemple, Annette, lieu ressource des écritures théâtrales, Saint-Étienne et sa comédie, le Festival de Limoges, etc. C'est d'ailleurs là qu'en fait nous passons le relais, puisque nous travaillons uniquement, et c'est très compliqué pour nous d'ailleurs, surtout vis-à-vis de la reconnaissance des structures subventionneuses, on va dire, nous travaillons uniquement sur l'émergence de l'écriture théâtrale et sur le soutien au début d'un auteur qui nous semble prometteur. Notre fonction n'est pas de produire un spectacle ou de suivre tel ou tel écrivain une fois qu'il commence à être reconnu. Nous nous contentons de mettre en place le plus possible de lectures publiques, comme celle de ce soir, pour rendre compte et faire connaître la richesse de l'écriture dramaturgique d'ailleurs. Le programme de cette soirée veut donc être, d'une part, le témoignage de l'activité de l'association Écriture Vagabonde, d'autre part, un modeste point de vue sur la jeune écriture théâtrale au Québec et son rapport avec les réalités sociales contemporaines dans ce pays. Il y a des dizaines de textes formidables écrits ces dernières années au Québec. Ils sont forcément marqués par l'évolution du monde et plus particulièrement par celle plus locale d'un pays qui a profondément changé en très peu de temps. Il en sera question dans la table ronde qui partagera cette soirée en deux. Il a fallu choisir quelques-uns de ces textes et en plus n'en présenter que des extraits. Ça donne quand même une soirée assez longue, mais ça a été très cruel de faire ce choix. Nous espérons en tout cas que ces extraits vous donneront un aperçu appétissant de la richesse de la création actuelle au Québec. Pour trouver ces textes et d'autres aussi, vous pouvez vous adresser, c'est une petite parenthèse technique, à Annette, www.annette.net, ou au CEAD, Centre des écritures dramatiques du Québec, www.ced.qc.ca, ainsi que pour ceux qui sont édités, éventuellement à la librairie du Québec, qui se trouve rue Saint-Jacques. Ce n'est pas de la pub, mais c'est simplement pour une question pratique. Pour en venir au vif du sujet, et pour ce qui est du rapport d'écriture vagabonde avec le Québec, il concerne surtout deux actions. La première, deux années de suite, Écriture vagabonde a envoyé de jeunes auteurs du Sud au Festival du Jamais lu de Montréal. En 2008, il a été demandé aux auteurs invités de s'écrire par mail pendant 6 mois environ avant le festival, en parlant de leur rapport personnel à leur propre pays sous l'angle « rester ou partir ». Ça a donné le texte de correspondance à trois voix, celle de Carole, la Libanaise, d'Evelyne, la Québécoise, et d'Olivier, le Belge. C'est ce texte qui va vous être lu en ouverture de cette soirée. Il s'agit donc moins d'un texte théâtral que d'une mise en situation de la problématique que vivent aujourd'hui de jeunes écrivains face à la société dont ils sont à la fois les observateurs et les acteurs, et de l'idée qu'ils se font de la vie de l'autre. Bonne soirée.
Correspondance, scène 1, rester ou partir.
Je vais partir d'ici.
Quoi ?
Je vais partir d'ici.
Des plans d'évasion, on en a fait des milliers, hein ? Des milliers. Fréquemment, on faisait nos valises. On volait des cartes routières dans les stations-service. Et dessus, on traçait nos chemins vers l'ailleurs. On trouvait toujours, en cherchant bien, des causes qui nous obligeaient à partir pour toujours. Une injustice dont on était les victimes, un scandale qu'il fallait fuir absolument, un danger qui nous guettait, quelqu'un qui souhaitait notre mort. C'était un jeu. C'était un jeu, mais on avait peur pour vrai. Oui, mais pas très longtemps. Parce que toujours, après 1 heure de marche à peine, même pas, tu pleurais, puis on devait arrêter de partir et rentrer à la maison. J'avais froid, et on n'avait jamais assez à manger dans notre sac à dos. C'est pas grave. Les gens qui s'enfuient ont froid, et souvent, ils n'ont rien à manger. Mais ils continuent quand même de partir. Oui, mais eux, c'est du vrai. Nous, c'était du jeu. Et alors? Alors nous, on n'avait rien à fuir. Rien à rêver non plus. On vivait déjà le rêve américain de tous ceux qui partent vers l'Amérique. Alors quoi? Tu voulais quoi? Je voulais partir d'ici pour toujours. Où ça? N'importe où. Genre, pour le geste? Pour la protestation? Oui? Tu trouves pas ça un peu adolescent? Ben, on avait 14 ans. C'est normal d'avoir un comportement adolescent à 14 ans. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on n'a plus 14 ans. Et tu veux encore jouer à partir? Pas jouer. Partir. T'es certaine? Laisse-moi, tu m'énerves. Toi aussi, tu m'énerves. Un double ne vous laisse jamais tranquille. C'est une plaie. Une vraie.
Scène 2, la carte du monde.
Je reprends bientôt l'avion.
Et la Belgique, qu'est-ce qu'elle a? Elle pue?
Non, mais...
Mais quoi?
Mais j'ai des choses à faire ailleurs.
Comme quoi, par exemple?
Je vais écrire une pièce de théâtre aux États-Unis, puis j'irai travailler en France.
Une quoi?
Du théâtre.
Et la télé, ça ne t'intéresse pas?
J'en ai déjà fait, mais...
On gagne mieux, non?
Littéralement, on peut même dire qu'on gagne. Dans le théâtre, il n'y a rien à gagner.
Pourquoi tu le fais, alors?
Parce que je ne travaille pas que pour l'argent.
T'es un marrant, toi. Mais je reviens à ma question. La Belgique, elle pue?
Non, elle pue pas.
C'est pas bien ici?
Si, si, très bien.
Mais c'est quoi que t'aimes pas? Le roi, c'est ça?
Non, non, enfin si... Je n'ai rien contre le roi...
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le roi. Et c'est vrai qu'il est un peu radin. Mais il est très calé en moto, tu savais?
Oui, oui, je savais.
Et ça, c'est plutôt cool, non?
Si tu le dis...
Non, mais franchement, la Belgique, c'est le paradis. Si on regarde bien, comparé à d'autres, c'est le paradis. T'as vu la couverture sociale qu'on a? Et l'aide à l'emprunt? Moi, j'ai calculé. À 55 ans, je serai propriétaire. Et les congés payés, et le 13e mois...
Je ne sais pas, je connais pas bien tout ça.
Ah ouais, toi, t'es... Tu te la joues artiste, c'est
je
ça?
Je suis un artiste, ne vous déplaise.
Et c'est où que tu veux t'expatrier? Aux États-Unis, c'est ça? Je te signale qu'au Québec, ils parlent français. Ce serait peut-être un peu plus facile, non?
Je ne cherche pas à m'expatrier, je vais là où il y a du travail, c'est tout.
Et la Belgique? Elle pue?
La Belgique, c'est pour les gens qui restent, pas pour les gens qui passent, qui partent et qui reviennent, puis qui repartent. Bonsoir. Si l'on ne veut pas mourir à 20 ans, il faut quitter la Belgique. La Belgique est bien fléchée. École, métier, mariage, enfant, garage à deux voitures, jardin et congés payés. Il se trouve des gens pour dire que c'est le paradis, qu'on a de la chance, qu'on est privilégié. Et moi, je crache sur ça. Je crache sur ces discours-là, sur cette vie préméditée. Je crache sur la sécurité, sur le planning des familles, sur les femmes prévoyantes, socialistes. Je crache sur les syndicats chrétiens et sur la charité. Je crache sur les hôpitaux et les soins de santé pour lesquels je paie des impôts. Je veux crever comme un chien, mais qu'on me laisse vivre ma vie. Je n'ai pas peur de mourir, et voilà pourquoi je vous emmerde tous. J'emmerde la religion et la politique, j'emmerde les surveillants et les pions, j'emmerde les flics et les délateurs zélés, j'emmerde les collabos de la sécurité vidéo programmée, j'emmerde les enfants rois et les matrones mammaires, j'emmerde les gardes chiourmes de nos infirmités philosophiques, et j'en appelle à Voltaire. La vie est soit de l'ennui, soit de la crème fouettée. Bon appétit aux bedaines intègres.
L'Orient, le jour. Journal libanais, 14 décembre 2007. Voilà maintenant qu'on touche du doigt le fin fond du tréfond de cette exception libanaise qui occupe tellement nos birbes déliquescents et fait tant ricaner les diplomates étrangers. Voilà un pays où la quête de l'alternance cocufie le bulletin de vote au profit de la bombinothérapie et où l'assassinat fait partie du patrimoine politique. Un pays aux frontières caviardées, comme une vieille chaussette filasse absorbant tout ce que les marchands de quincaillerie militaire ont envie de fourguer. Un État au système politique déjanté et aux institutions bordéliques. Une bonne vieille terre produisant le meilleur cannabis au monde pour le plus grand plaisir et le portefeuille garni de quelques roitelets provinciaux. Une cour des miracles hébergeant dans des zones de non-droit toutes sortes de mutants, barbus ou imberbes, aussi dépenaillés qu'échevelés. Un mouchoir de poche où l'électricité tremble, les prix flamboient et les égouts pissoient. Bref, un bled où rien ne marche et tout fout le camp. Jusqu'au jour où le voyageur échaudé dira « Le Liban n'existe pas. Je le sais, j'y ai vécu. » Gabi Nasser. Le Liban n'existe pas. Je le sais. J'y vis. 4h30 du matin chez moi, 7h de moins chez toi, Evelyne, et seulement une de moins en Belgique, où tu es, Olivier. Je ne dors pas. Je n'arrive pas à dormir. Est-ce à cause de la misère du monde? Parfois, sans doute. Mais depuis que je ne sais plus rien, c'est le vide de mon esprit qui m'empêche de dormir. Je n'arrive plus à rêver. On aurait fait des expériences sur des chats. On les réveille à coups d'électrochocs dès qu'ils rentrent dans la phase du sommeil où ils rêvent. Ils en meurent. Comme si, quand on est au cours d'une merde, le reste du monde ne mourrait pas lui aussi. L'instinct de survie rend égocentrique.
Quand j'ai été en âge de comprendre qu'il y avait différents pays sur la planète, j'ai été vraiment choquée par la découverte de statistiques révélant que l'existence de vie n'était pas la même selon qu'on soit né au Canada ou au Mozambique. Si j'étais révoltée par l'inégalité des richesses, je trouvais bien plus grave encore l'inégalité de l'espérance. Mais maman, est-ce que eux, ils le savent?
Quoi?
Les gens du Mozambique, est-ce qu'ils le savent qu'ils vont mourir à 40 ans?
Ils vont pas nécessairement mourir à 40 ans, qu'est-ce que tu racontes?
Mais est-ce qu'ils le savent que nous, on va durer plus longtemps qu'eux?
Quoi?
Est-ce que quelqu'un leur a dit que les pays où les gens vivent le double de leur vie, à eux?
Je ne comprends pas.
Est-ce que l'espérance de vie, ça veut dire plus de vie qu'on peut espérer? Le maximum? On ne peut pas espérer plus de vie que son espérance de vie?
Non, c'est juste des statistiques.
Ça veut dire que c'est pas vrai?
Non, ça ne veut pas dire ça.
J'espère qu'ils les ont pas lues, les statistiques, parce que ça doit être décourageant. J'espère qu'on leur a caché les statistiques.
Je pense pas qu'ils aient accès aux statistiques.
Alors ils pensent que tous les êtres humains meurent à 40 ans?
Je sais pas.
Ça voudrait dire que l'année prochaine, tu meurs? Si t'étais née au Mozambique, tu mourrais l'année prochaine, t'as 39 ans.
Bon, ça suffit, je suis fatiguée.
Moi aussi, je suis fatiguée. C'est fatigant de se parler, hein, maman?
Scène 3, malgré ou à cause de l'inconfort.
L'écriture est venue à 15 ans comme une fenêtre percée dans le béton. Un professeur a ouvert cette fenêtre et je m'y suis engouffrée.
Je t'imagine dans une grotte faite de silence et je respire.
Il faudra encore écrire. Certainement beaucoup de mots encore pour que, peut-être, une seule fois, vivre le miracle que j'espère sans relâche. Relire une phrase que j'aurai écrite et pouvoir me dire
C'est exactement ce que je pensais.
Bientôt, je ne faisais plus que cela, écrire.
Ça ne m'est jamais arrivé.
Et je me souvenais que j'avais toujours écrit, avant même de savoir lire. Je dictais des histoires à ma mère qui les écrivait.
J'imagine les mots qui se dessinent, mais qui ne trouvent pas leur forme sonore.
Plus jeune encore, je griffonnais sur les cahiers. Je collectionnais les bics et les marqueurs, je n'en avais jamais assez. Adolescent, j'écris sans cesse des poèmes, des nouvelles, des petits récits et des notes. Je gagne des concours, je suis remarqué.
Toujours, l'imperfection se glisse. L'approximation, l'insuffisance ou l'enflure, le dérapage entre l'idée et l'objet. Il paraît que c'est normal, soit, mais c'est frustrant.
Puis vient l'université, un 8 sur 20 en analyse de texte. Et tout s'arrête.
Pourtant, je suis obligée d'écrire, parce que je ne sais pas parler.
Je t'imagine ici, tu serais probablement perdue dans cette ville où même les gens, même les gestes font du bruit, où même les murs semblent crier. Tout crie ici, et en plusieurs langues. Arabe, français, anglais.
Je veux dire que, oui, théoriquement, je sais parler. On me l'a appris sommairement. Je ne suis pas officiellement muette. C'est pas ça, c'est juste que j'y arrive pas. Je suis incapable de m'entretenir oralement. Je mets des heures à me remettre du moindre échange. Je tremble à l'idée de croiser quelqu'un de significatif à qui je sois bien obligée de dire quelque chose, de dire des mots qui en appelleraient d'autres. Je n'ai pas de conversation, rien ne me vient à l'esprit au moment où il le faudrait. Ça fait de longs silences, ça crée des malaises et tout ceci est très inconfortable.
Là où il n'y a pas de plaisir, on ne peut pas écrire.
Mais chaque langue a son attitude, sa personnalité, son influence sur la construction de la pensée, sa manière de se placer dans la bouche. Souvent, elles se mélangent dans la même phrase et parfois elles s'adaptent, s'intègrent. Un mot en français s'offre une terminaison en arabe pour passer inaperçu.
À l'université, tout est bridé. On analyse, on ne lit pas. La plupart d'entre nous sont venus aux études de lettres par goût de la lecture. On va les envoyer au bagne de la linguistique et de la philologie de l'ancien français. Plus de plaisir, plus de curiosité, on tue à grand feu la créativité. À l'université, c'est la norme. Nous sommes parqués dans les amphis comme des poissons dans un bocal sans eau.
L'autre jour, quelqu'un m'a posé une question. Une question assez simple, il me semble. Je me suis concentrée du mieux que j'ai pu. Je transpirais. J'ai ouvert la bouche pour laisser un passage, mais rien n'est venu. Et au bout de quelques minutes, je me suis dit, voilà encore une autre personne qui vient de découvrir que je suis stupide. Je vois parfaitement, dans l'œil de mon interlocuteur, l'instant où il le comprend. Cet instant où il le saisit pleinement, c'est quelque chose d'irrémédiable. Ça me rend honteuse et je m'enfuis, mais trop tard, je suis dévoilée.
Au beau milieu de ce désert, Eugène Savitskaya vient parler. On attend une conférence, il nous lit des extraits de ses livres préférés, et il conclut sa longue lecture par un sonnant. Écrivez si vous voulez écrire, écrivez, ne faites que ça. Je suis passé par l'université, j'y suis resté 2 semaines, ensuite j'ai étudié la photo et puis je suis revenu à ce que j'aime écrire. Et depuis je n'ai fait que cela. Est-ce que je vous conseille de faire? Eh bien, c'est ça.
Le plus important est de communiquer. Pour se prouver qu'on a compris, qu'on a une opinion et qu'on est vivant.
Et puis, évidemment, l'interlocuteur se charge de parler de sa découverte de ma stupidité aux autres, à ceux qui parlent et se parlent entre eux, aux virtuoses de la conversation, si bien que ça me fait une réputation.
J'ai 20 ans et c'est la deuxième fois que l'écriture se réveille en moi. Je change d'université, je cesse d'aller aux cours, je termine mes études, j'écris, beaucoup de choses inutiles, beaucoup de choses personnelles. Puis le théâtre vient et je fais parler les autres.
Ça me fait drôle de ne pas parler, quand autour de moi, les gens ont toujours quelque chose à se dire. C'est stupéfiant comme ils s'expriment avec aisance, même quand leur bouche est occupée à faire autre chose, comme manger ou sourire ou fumer. J'ai beaucoup d'admiration pour eux.
Je parle à tout le monde, à chacun dans sa langue. Je vole leurs mimiques et les renvoie en miroir. Je jongle avec les mots en insérant des rires complices. Je leur mens, à tous. Je me mens à moi aussi. C'est que je n'ai pas trop le choix. Depuis longtemps, maintenant, je ne sais plus rien. De moi, de ceux qui m'entourent, rien. J'ai tout oublié un jour. Était-ce un accident ou était-ce la réalisation d'un souhait? Une démarche inconsciente de ma part pour effacer des informations que je ne comprenais plus? Ça non plus, je ne le sais plus. Tous les jours, je rentre dans ce brouhaha, pleine de points d'interrogation que je m'efforce de redresser pour qu'ils ressemblent à des points d'exclamation.
Vous aurez sans doute compris que nous ne pourrons jamais discuter comme le font tous ces gens, vous et moi. Et c'est sûrement dommage.
Même quand j'achète mon pain, je fais de l'humour. Je ris, je fais du bruit, je dis mille choses avec les mains. Le temps, la situation politique, les voisins, la dernière starlette refaite de partout. Toutes les banalités y passent. Je fais comme tous les autres parce que je saurais pas comment faire toute seule.
Je ne cherche pas à dire ce que je pense ou ce que je ressens. Je cherche à redire sans cesse l'instant qui me traverse.
Et pour me reposer, j'écris. Je vous écris.
Mais à tout prendre, il y a encore l'écriture entre nous.
Toute écriture est au présent. J'écris pour effacer les traces, pour oublier. Ce qui est écrit demeure, ma mémoire peut l'effacer. J'écris pour renouveler le temps.
Mais le jour où on se verra, j'espère que nous n'échangerons aucun mot et que je pourrai un instant profiter de vos bulles de silence.
Scène 4. Celui qui fait écrire.
C'est dommage. Fut une époque où je pleurais beaucoup pour les autres, tous les jours. Et ça inquiétait mes parents, qui se sont mis à tout relativiser pour que je puisse avoir une enfance tranquille. Arrête de pleurer, voyons. Le mendiant n'est pas vraiment malheureux. C'est son choix. Et cet enfant africain, oui, bon, il a explosé dans un attentat, mais il serait éventuellement mort du sida de toute façon, et dans des souffrances, alors, au fond, c'est une bonne chose. Et ainsi de suite. Leur belle entreprise de relativisation pour favoriser mon insouciance a fini par fonctionner. Et en grandissant, je me suis mise à pleurer sur mon propre sort. Un sort où les autres n'ont plus rien eu à faire. Grâce à l'insouciance, les autres sont devenus le dernier de mes soucis. Au rythme de mon alphabétisation, qui me servirait éventuellement à écrire, quelque chose me désertait. Quelque chose que j'essaie de retrouver aujourd'hui sans jamais vraiment y parvenir. Parce que il me semble que j'avais des choses bien plus intéressantes à écrire à l'époque. Quand je n'étais pas encore en âge d'écrire, à mon époque analphabète, où mes idées étaient bien plus vastes et bien plus empreintes d'humanité. J'ai le souvenir qu'alors, mon refus des choses était vif. J'étais perpétuellement indignée par ce que je tolère beaucoup mieux aujourd'hui.
Scène 5, pas de titre.
Le problème, c'est que tu crois pas aux symboles. Non. J'aime pas les symboles. Alors tu peux pas partir parce que ce serait trop symbolique. J'ai du mal avec la gravité des départs symboliques. Tu veux dire la gravité qui tire vers le bas? Qui fait tomber les pommes sur la tête des gens? Non, la gravité qui fait qu'on trouverait approprié d'avoir la larme à l'œil. Mais c'est vrai que c'est approprié la larme à l'œil quand on quitte quelque part pour toujours. Mais moi, je veux quitter avec légèreté. Je veux quitter légèrement pour montrer à tout le monde que le patriotisme est bel et bien révolu. Qu'il faudra bien quitter définitivement notre tendance à nous approprier des territoires et des langues et des ancêtres et des arbres plantés et des lambeaux d'histoire. Que partir est rien d'autre que se déplacer, c'est tout. Être en mouvement, comme toutes les choses qui se déplacent dans l'univers. Et qu'il n'y a pas de quoi verser une larme, surtout pas symbolique. C'est tout? Oui. Ben alors vas-y, pars. Je le savais que tu partirais pas.
Scène 6, destination paradis.
La voiture démarre et le coffre est plein. Il va y avoir de la route et des lumières sur la route. Ah, les lumières de la route. J'aime les éclairages au sodium. En Belgique, la nuit, les autoroutes sont éclairées. C'est comme ça que je sais que nous franchissons la frontière. Quand on s'engouffre dans le noir, c'est la France. La France, c'est la noirceur des routes dans l'immobilité de la nuit. On roule, papa conduit, ma sœur dort. On nous a constitué des petits lits à l'arrière de la voiture. Ça, c'est la tâche de maman. Rendre la voiture habitable pour un voyage en vacances vers le sud de la France. Quand on quitte Liège, on prend l'autoroute des Ardennes. À marche en famène, mamie nous adresse un signal lumineux avec une lampe électrique depuis la fenêtre de son appartement. Elle nous guettait et a reconnu la voiture. Nous passons. Il est temps de dormir à présent. Nous ne verrons pas Metz ni Nancy. Nous nous réveillerons à l'arrivée en Bourgogne. Mâcon, Dijon, Lyon, le tunnel de Fourvière, souvent embouteillé. Puis enfin l'autoroute du soleil vers la Provence. Le grand plaisir, c'est de sauter dans la piscine dès le premier jour, dès l'arrivée. On a gagné une journée. Une après-midi en tout cas. Ça y est, on est là, dans ces vacances en club où tout est organisé. Pour nous, c'est le paradis. Et la piscine, c'est sacré. C'est ce qui représente et symbolise au mieux les vacances. L'eau. C'est face à l'eau que nous sentons combien nos existences sont de béton, de routes et d'immeubles solides et sales. La piscine, mieux que la mer, c'est la permanence du rêve, à travers le turquoise hyperchloré, le fantasme d'une eau couleur parfaite, un retour aux sources, quoi. Le paradis. Donc. C'est en comparant mes vacances avec celles des copains que je m'aperçois que tout le monde n'a pas les mêmes vacances, que j'ai de la chance de partir en vacances, mais qu'il y a aussi des copains qui ont plus de chance. Je me situe à mi-chemin, dans un équilibre tempéré, n'ayant jamais manqué de rien et ayant toutes les cartes en main pour apprécier ce que la fortune familiale ne peut m'apporter. À moi de choisir dans ma vie d'adulte si je veux devenir suffisamment riche pour y goûter beaucoup de choses appréciables, coûtent cher, alors y renoncer, sacrifier l'être pour l'avoir. C'est dans ces moments-là que je me resserre un café.
Partir, tourner le dos, s'enfuir, arracher de sa tête tout ce qui fait mal, fermer les yeux et foncer en avant sans se retourner. Oublier qu'on est marqué au fer rouge, ne plus penser qu'on est ancré dans ce sol et s'envoler. Inévitablement, cependant, la mémoire regarde en arrière. Inévitablement, des détails rappellent qu'on est pétri de cette terre. Revenir, rentrer, se reposer, retrouver des instants de l'enfance, les dépoussiérer, se souvenir, pleurer un mot, perpétuer la race, planter un arbre pour marquer son territoire, pour s'enraciner un peu plus, pour se forcer à rester. Au moins une petite partie de soi, au moins une idée de soi. Recommencer, repartir, en emportant cette fois dans ses valises l'arbre généalogique et la carte du monde. Et dans la bouche, un arrière-goût d'amertume. Porter cette identité complexe sans plus avoir besoin de se définir. Comprendre que l'Eldorado comme le paradis perdu sont des vues de l'esprit et continuer. Revenir. Peut-être un jour, pour mourir sur le soleil des ancêtres.
Scène 7. Ceux pour qui ce n'est pas pratique de vivre dans le pays où ils sont nés.
C'est loin le Canada.
Ouais.
Mais pourquoi alors?
Je sais pas, pour changer. Vraiment changer.
Ça risque d'être un changement.
Généralement, un habitant de l'Amérique du Nord se sent au centre du monde. Le reste n'existe que par les quelques images qu'on veut bien lui faire gober. Et encore. Ce qui est rigolo à Montréal, c'est que les Québécois se sentent loin de tout. Leurs affinités européennes les placent à l'autre bout du monde. Au moins, là-dessus, on sera d'accord. Je serai intégrée parce que, comme tout le monde, je me sentirai loin.
Mais tu ne te sens pas chez toi, au Liban?
Si. Oui, non. Enfin, comment dire, je... Je sais plus, enfin... Si, je sais, c'est chez moi, plus même, c'est moi... Mais...
Et ces gens de partout qui viennent chez toi et qui repartent la larme à l'œil en portant dans leur bagage une sensation d'avoir enfin vraiment touché la vie, ça te...
Si, la vie, la mort, les larmes, les sensations, les émotions. Je les sens tellement exacerbées qu'il m'est arrivé d'éclater en sanglots devant une pub pour un shampoing. Lui parlait des racines de ses cheveux et moi je pensais aux miennes. Culturelles, floues, les ancêtres, la terre, le cèdre et tout ça.
Et tu crois que par moins 20 degrés sous 35 cm de neige, ça va anesthésier tout ça? Tu crois vraiment que tu ne te poseras plus ces questions?
Oh, tu m'embêtes, j'en sais rien. Peut-être que certains instants, pendant quelques secondes, je n'aurai pas besoin de savoir. Peut-être que je pourrais me noyer dans le melting pot des gens qui viennent d'ailleurs, qui se sentent loin, qui ont oublié les odeurs de la maison. Ici, à Beyrouth, on a un sérieux marché pour les pertes de mémoire, réécriture d'événements et diverses interprétations. On devrait quand même un jour faire comme les Québécois. Je me souviens. Comme un post-it collé sur la plaque d'immatriculation des voitures. Il faudrait déjà être d'accord sur une version.
C'est vrai qu'ici, au Québec, nous nous souvenons. Nous nous remémorons. Nous ressassons. Nous donnons un sens à ce qui n'en a pas eu. Nous cherchons des liens de cause à effet. La neige, par exemple. Nous aimons nous souvenir de la neige. En quelle année il y en a eu plus, et puis moins. En quelle année elle est arrivée avant Noël, ou après, ou pendant. En quelle année elle a coûté cher, la neige, parce qu'il faut déneiger la neige. En quelle année elle nous a surpris au mois d'avril, recouvrant les personnages. Bref, la neige ou l'absence de neige semble être un aspect fondamental de l'histoire du Québec. Nous adorons la neige parce que ça nous fait notre épreuve collective à tous. Nous pouvons détester la neige tous ensemble quand elle recouvre les voitures, quand elle sème le chaos, quand elle ferme les écoles, obligeant les parents à ne pas aller travailler parce qu'ils doivent alors surveiller leurs enfants, qui jouent dans la neige au lieu d'aller à l'école. Et nous,
Nous pouvons, tous ensemble, maudire notre ennemi de l'ordre, notre catastrophe naturelle et démocratique. Et puis, à l'international, ça fait rêver un pays de neige, de la cape blanche, l'or blanc, tout ça. Et puis, surtout, on peut jouer à survivre à l'hiver, attendre qu'il passe et nous dire gravement, encore une fois, on l'a échappé belle. Et c'est à ce moment-là que, malgré tout, bien que nous ne soyons que des individus avec des soucis individuels, des peurs individuelles et des rêves individuels, soudain, on n'est plus seul. Pour avoir eu froid ensemble, on a le sentiment d'appartenir à une collectivité frissonnante. Et c'est grisant.
Je crois que je pourrais me plaire chez vous. Après tout, la guerre aussi peut être considérée comme une catastrophe naturelle.
Scène 8, pas de titre.
Et c'est là que tu as décidé de partir? Ou là? Ben, je veux dire, c'est à ce moment-là que tu as eu envie de partir? Quand ça? Au printemps? Ce printemps que tu as trouvé si laid et si désolant? Pour être vraiment exact et sans dramatiser, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de mourir.
OK. Genre le vrai long voyage.
Ouais. Et comment tu t'y prendrais?
Je me noierais dans la neige.
Mais comment? Je me vautrerais dans la neige et je mangerais de la neige jusqu'à ce que je me noie.
Mais il n'y a plus de neige.
Oui, ben c'est ça le problème. C'est le seul problème. Je veux dire, c'est le seul empêchement.
Non, non, bien sûr que non.
Ben quoi d'autre? Je supporte pas que ce soit ma faute.
Ta faute de quoi?
Ben je préférerais que ce soit un accident.
Pourquoi?
Parce qu'il y a suffisamment de choses qui sont de ma faute. Je veux dire, être occidental, c'est déjà lourd à porter. J'ai pas envie que ce soit de ma faute si je meurs en plus.
Mais ce serait pas de ta faute, ce serait un malheur social.
Ce serait quand même un peu de ma faute. J'aurais pas pu voir ce printemps pour ce qu'il a de beau à offrir. J'aurais pas pu avoir une attitude positive. J'aurais pas pu relever le défi entier que la vie m'a donné. Donc ce serait ma faute. Et alors? Ben, et puis il paraît que c'est douloureux, la noyade. Il paraît, oui.
Scène 9. Intimité suspendue.
Mais j'avais oublié l'essentiel du printemps. La manifestation visuelle digne d'une exposition d'art contemporain qui aurait pour thème le merveilleux de l'ordinaire. Ou quelque chose comme ça. J'avais oublié à quel point cet impudique étalage d'intimité m'intriguait et m'émouvait à la fois. Plus attendu et plus espéré que le premier voilier d'Outarne. Les cordes à linge. J'adore les cordes à linge qu'on habille au printemps. Ces guirlandes qui décorent les quartiers populaires et qui en disent long sur les individus, les couples, les familles qui étendent leur vie au grand soleil, leurs grands draps comme des voiles, parfois des vêtements de nouveau-né, pas plus grands que des vêtements de poupée, et je me dis, tiens, en voilà un qui est né au printemps. Et je me dis aussi, quand même, c'est un miracle que tout ce linge, flottant dans l'air vicié d'une ville sale, laide et désespérante comme Montréal, arrive à sentir divinement bon au bout du compte. Comme si un tri miraculeux avait enfermé dans ce linge des parfums insoupçonnés, des restes de campagne peut-être, du temps où Montréal était la campagne peut-être. Et après, je me dis que franchement, devenir sentimental devant des cordes à linge, c'est vraiment pathétique. Je m'insupporte. Je me tape vraiment sur les nerfs, je me désespère et je me fais penser à Sophie Durocher.
La Belgique est un pays de discrétion et de compromis. Petit pays, pays jeune à la mentalité vieille, pays en préfabriqué. Pas d'ambition, mots tabous, mots obscènes. On a eu le Congo et on s'en culpabilise encore. On a eu des poètes, mais on ne les enseigne pas dans les écoles. Les cours de français est consacré à la grammaire, longtemps, et à la littérature française, un peu. En Belgique, nous avons de bons linguistes et de bons philologues. On aime respecter les règles, les appliquer, on aime établir une norme et s'y tenir. L'auteur du bon usage est belge, ça veut tout dire. Il y a un documentaire où l'on peut voir le dessinateur Reiser se baigner dans la mer du Nord. Le ciel est rouge et la mer est salée, pleine de fougue. Il est 6 heures du soir par un beau jour d'été. Reiser est seul sur la plage. Les Belges sont rentrés manger. Il dessine des vieux en veste beige ou grise. Il dessine des immeubles aux arêtes carrées. Puis il dessine un homme dont on voit l'estomac, tout enlacé et en courbe. Reiser dit ensuite que notre habitat n'est pas en rapport avec notre identité. Des carrés pour des courbes. On vit dans un milieu qui ne nous correspond pas. Hein ? En Belgique, la vieillesse apparaît vers l'âge de 25 ans. On voit des couples économiser pour les vieux jours et se sacrifier pour leurs enfants. La Belgique est catholique et nul ne peut y échapper, même pas les socialistes du Sud et leurs curés athées. Quand on est artiste, on doit faire dans le social. Les frères d'Ardenne sont là pour le prouver. Et nous sommes fiers d'eux, même si personne n'a vu leur film. Les Belges n'ont pas le temps de s'emmerder. Il y a tout de même Jean Bucquois et l'entarteur Benoît Poulvorde et Tataillé. La Belgique ne craint pas la vulgarité. On se souvient d'un Premier ministre chevauchant un photo-roll lors d'une visite en Amérique avant de vider quelques tonneaux de bière. Les hommes politiques sont gros. Comme au XIXe siècle dans les caricatures de Daumier. La Belgique a des lourdeurs d'estomac et des impôts à payer. Elle éclaire ses autoroutes pour qu'on ne l'oublie pas. Derrière la modestie, il n'y a pas d'humilité, mais un orgueil mauvais, jaloux et matois. Simenon en a très bien parlé. La Belgique est replète, contente d'elle-même, repue à satiété. Laissez-la digérer, laissez-la mourir dans son sommeil. Il va pleuvoir encore, il va falloir rembobiner les stores et mettre les côtelettes à poêler avec les pommes de terre, après la soupe aux poireaux. Ouais.
Il y a des fois comme ça, tu sais pas pourquoi, tout va bien. Oubliez le masque, la façade, les « il faut » et les « on doit », les problèmes et les soucis. Le soleil brille et se reflète en paillettes lumineuses sur la mer. La température est parfaite. Ton corps, habituellement crispé ou trop lourd à traîner, est en osmose avec son environnement. Tu fais un avec l'air. Légère comme ce petit vent qui fait délicatement tourbillonner tes cheveux, balayant d'un souffle tous tes doutes. L'odeur d'iode, un peu piquante qui s'empare de ton nez, semble purifier le tréfonds de tes pensées. Tout d'un coup, tu as la certitude que tu es exactement à l'endroit où tu dois te trouver. C'est le printemps à Beyrouth, des instants bénis de plénitude. La plus belle forme de l'Orient est sa courbe, tout en lascive douceur. La ronde infinie dessinée par la danseuse qui abrite, comme une offrande dans sa cambrure, le secret du lâcher-prise. Face à la mer, les rêves sont des projets et les projets sont des prières.
Scène 10, puis un jour il faut choisir.
Bon, alors, qu'est-ce que tu fais, finalement ?
Je vais appliquer à la lettre l'injonction de ma prof de lettres. Soyez cosmopolite et cosmochronique.
Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Je vais voyager dans le temps et dans l'espace.
Oui, mais concrètement ?
Quoi, concrètement ?
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que je vais circuler d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une époque à une autre.
Et comment ?
Par le travail artistique, la lecture, l'écriture et par les avions.
Oui, mais la Belgique dans tout ça, ton avenir ! Ton destin national.
Il n'y a pas d'avenir et je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une nation.
T'es un anarchiste, c'est ça ? T'es communiste ?
J'ai été élevé dans des valeurs de droite et aujourd'hui je suis à gauche, oui.
Mais prendre l'avion, c'est bien beau ça, mais ça coûte cher. Comment peux-tu être de gauche et appliquer une mentalité libérale ?
Bon, peut-être de gauche et prendre des avions.
Tu réponds pas à la question.
J'ai été à l'école chez les jésuites.
Et tu n'étais pas assez bon élève pour t'en prévaloir.
Leur enseignement touche aussi les élèves médiocres.
Moi, j'ai été à l'Athénée. Et j'ai reçu l'enseignement laïque de l'État.
C'est très bien. Je suis pour la laïcité.
Ah, l'ironie condescendante de celui qui se croit supérieur. Tu n'es pas meilleur que moi.
Mais loin de moi cette idée.
Même si tu voyages, tu retrouveras les mêmes problèmes partout.
Oui, mais pas le même climat.
Ah, tu vas voyager pour changer de climat.
Pour changer d'air, oui. De temps en temps, ça fait du bien.
Et où vas-tu aller ?
En Europe, en Amérique, en Afrique.
C'est tout ? L'Inde, l'Asie, ça ne t'intéresse pas ?
La vie est longue, on verra.
Et qu'est-ce que tu vas faire de ton chat ?
Mais mon chat est mort. Il y a longtemps.
C'est décidé. Je reste. J'irai vous voir à Montréal, j'irai encore ailleurs découvrir de nouvelles odeurs, de nouvelles couleurs, de nouveaux goûts, d'autres manières de vivre et de penser, mais je reviendrai toujours. Je reste parce qu'ici, même si on ne se fait plus d'illusions, on continue de rêver, et que ces rêves lâchés comme des plaisanteries sont des pieds de nez au destin. Parce que ce fameux sale espoir dont parle Anouilh est ici plus coriace que le cafard. Je reste parce qu'il y a tout à faire, à défaire, à refaire. Je reste parce qu'ici, on est à l'abri de rien et qu'il nous faut tous les jours retrouver son équilibre. Nous sommes des funambules marchant sur un fil tendu entre la folie et la mort. Et ça nous donne des ailes. Enivrant concentré de vie, si intense, tout petit pays plein de paradoxes, de contradictions, de tout et son contraire. Je reste parce que c'est face à la barbarie que l'humanité a le plus de chances de trouver sa place. Je reste parce que les yeux de ma grand-mère, qui recherche aveuglément des souvenirs de la terre qu'elle a dû quitter un jour, sans espoir de retour, me rappellent combien ça fait mal de partir. Je reste parce que, dans ce coin du monde, on touche de si près aux rouages de la vie et de la mort, dans toute leur absurdité, qu'on pourrait encore inventer une religion.
Alors, tu pars ou tu restes ? Je reste en parlant de partir. Ah bon ? C'est la position la plus confortable ? C'est moins déstabilisant. Tout demeure dans la projection, une projection de soi dans l'infini, dans le déplacement, dans le voyage, et dans un éventuel retour acclamé par ceux et celles à qui on aura manqué. Non, vraiment, c'est très pratique de partir tout en restant. Ça te convient? Oui, ça me convient. Et quand vraiment me prend un goût plus concret de dépaysement, je traverse le parc Jarry, un parc très laid, qui a une valeur sentimentale pour moi, parce qu'il a accueilli le pape dans le temps où je croyais en lui et en son Dieu. Donc, je traverse le parc Jarry, je me retrouve dans le parc Extension, et là, je ne sais plus qui je suis tellement je suis ailleurs. Et après, j'attends qu'il fasse tout noir pour retraverser le parc en sens inverse, pour avoir peur qu'il m'arrive quelque chose, dans le parc et dans le noir. Et je rentre essoufflée, mon cœur bat enfin très fort. Je deviens consciente de sa fonction, et alors seulement... je suis absolument certaine d'être vivante. C'est tout? Ouais. Tu voyages de chez toi à Parc Extension et ça te fait te sentir vivante? Je sens que tu minimises. Non, non. Mais l'important, c'est de vivre une aventure à sa mesure. Sans doute. Il faudra que tu viennes la prochaine fois. Si tu me promets de te taire un peu, d'arrêter de me poser des questions vraiment embarrassantes, la prochaine fois, je t'emmène.
Pendant que les techniciens changent les décors et les acteurs leurs costumes, quelques mots pour présenter la lecture suivante. Il s'agit de Félicité d'Olivier Chouanière. Ce texte est le seul édité chez Dramaturge Éditeur, un éditeur québécois, parmi ceux qui sont lus ce soir. Il y est question de l'objet de consommation mythique le plus important au Québec, avant même la poutine et le sirop d'érable, et de son influence sur toute une génération de vénérateurs, excusez le néologisme, pardon, d'icônes. Vous aurez compris qu'il s'agit de Céline Dion. Il a été d'autant plus difficile de choisir un extrait que ce texte étrange pratique non seulement la caricature décalée, mais aussi le fondu enchaîné du cinéma en superposant les personnages. Nous espérons ne pas l'avoir vidé de son sens, et Dieu sait s'il en a du sens, en ne vous lisant que les deux premières parties. Après cette lecture, il y aura une petite pause avant la table ronde.